nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé. Baixo xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé.
Bonjour, la révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Geneviève Courreau. Elle est ancienne présidente de l'Assemblée des femmes. Elle est présidente d'honneur de Élus contre les violences faites aux femmes. Et elle est secrétaire générale de Négar Soutien aux femmes d'Afghanistan. Donc je lui ai demandé de venir pour parler bien notamment de comment elle a été amenée à rencontrer cette association, comment elle a été amenée à rencontrer Choukria Haïdar. Et voilà, donc c'est merci Geneviève d'avoir accepté de venir. Et je vais te laisser la parole. Et voilà.
Bonjour Nadia. Merci à toi de m'inviter et de me donner la parole pour évoquer ce qui est en train de se passer en Afghanistan et pour évoquer autour tout un parcours de féministes que je vais mettre au pluriel d'ailleurs parce qu'on est nombreuses dans ce combat. En ce qui concerne la situation en Afghanistan, c'est évidemment épouvantable à l'heure actuelle. Tous les échos que nous avons et qui viennent des différents départements de l'Afghanistan où nous avons des correspondants et des correspondantes sont absolument d'accord pour dire que ce qui se passe est terrible. C'est terrible pour les petites filles, les filles, pour les femmes. C'est terrible pour les hommes aussi et pour les jeunes garçons. C'est terrible pour l'ensemble de la population. Tout ce qui se passe sous la botte des talibans se double du fait que sur le plan économique, il y a une catastrophe complète. Les gens sont réduits à mendier, à essayer de trouver de quoi nourrir leurs enfants partout. C'est au jour le jour et quelquefois le matin pour le soir. Et d'une part, et d'autre part, le Covid a fait des ravages dans ce pays qui est un pays très jeune. L'échelle des âges est tout à fait intéressante sur ce plan-là. Il n'y a pratiquement pas de vieux en Afghanistan. La population est extrêmement jeune. Je vais lire pour commencer un témoignage que je viens de recevoir et qui est celui d'un médecin français qui est resté en contact avec des collègues qui travaillent dans un hôpital en Afghanistan. Donc on ne dira pas de lieu de façon à protéger les personnes qui s'expriment. J'ai beaucoup d'amis qui vivent dans la violence et la terreur. Ce soir, je veux vous rapporter un témoignage dont, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas vous citer la source. Il y a actuellement, dans un bloc opératoire d'un hôpital d'Afghanistan, des talibans armés de Kalachnikov qui poussent les patients au bloc à coups de crosse et qui balance par terre tous les instruments de la table de chirurgie si l'intervention dure trop longtemps ou si le résultat ne leur convient pas. On croit rêver, on ne rêve pas. Les témoignages se recoupent. Oui, les talibans font régner la terreur, y compris dans les hôpitaux, et nous assistons impuissants à cette situation effroyable. Il faut peut-être faire circuler cette info. Notre rôle est de témoigner. Merci donc à Révolution Féministe de me laisser la possibilité de témoigner à mon tour de ce qui se passe dans les hôpitaux. Vous aurez compris que si on touche à la santé, si on touche aux hôpitaux, si on touche à la possibilité de se soigner, alors cette société est extrêmement malade et elle est malade de ce pouvoir taliban qui s'est imposé en quelque temps sur le sol de l'Afghanistan. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et peut-être dire aussi tout de suite que l'association à laquelle j'appartiens depuis 1998, Négar Soutien aux femmes d'Afghanistan, a été fondée par Shukriya Haidar, qui est afghane, franco-afghane à présent, en 96. Elle a fondé Négar en 96. Et cette association est une association qui a une double implication. Une première implication de terrain, qui est une association de, qui est une implication de soutien des femmes. C'est pourquoi Négar s'appelle Négar Soutien aux femmes d'Afghanistan, qui travaille à Kaboul, mais aussi dans d'autres départements, surtout dans le Panjshir, où nous avons créé des écoles, assuré la formation des enseignants, assuré l'accompagnement des petites filles, puis des jeunes filles qui vont au lycée. Nous avons créé aussi une crèche avec jardin d'enfants, qui est un bâtiment qui a été entièrement subventionné par le soutien des collectivités territoriales françaises, que je salue ici, qui se sont, dès les années 98, complètement impliquées auprès de nous, non pas bien entendu pour construire ces établissements, puisque la construction n'est intervenue qu'après le départ des talibans en 2001, mais auparavant, nous étions impliqués dans les classes clandestines et nous récoltions de l'argent en France, aux États-Unis, en Australie, etc., pour permettre aux classes clandestines de petites filles de se mettre en place et de soutenir l'enseignement des petites filles qui en étaient interdites et qui en étaient éloignées. Voilà, résumé un petit peu vite ce point. Le second point, et qui est notre action aujourd'hui principale, c'est une action politique. Notre objectif numéro un, c'est la non-reconnaissance par les États du pouvoir terroriste taliban. C'est non. Non au pouvoir taliban.
Oui, c'est fondamental et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas malheureusement. Il y a des États qui semblent vouloir reconnaître les talibans.
Alors, c'est certain que la Chine, la Russie, tout de suite, on fait un pas en direction de l'Afghanistan, très soutenu par le Pakistan. Hein, toute cette prise de pouvoir des talibans a été soutenue, sinon organisée, par le Pakistan. Les services secrets pakistanais ont été extrêmement actifs dans toute cette période qui a précédé la prise de Kaboul, le 10 et le 15 août. Donc, oui, il y a des pays qui certainement vont trouver commode de reconnaître l'État taliban, mais nous, ce qui nous importe, ce sont les pays de ce côté-ci du globe, c'est-à-dire l'Europe en premier. L'Europe doit être leader sur cette prise de position. D'abord parce qu'elle a accueilli de nombreux émigrants, donc afghans, elle sait ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fui, pourquoi ils sont partis. Donc elle est au courant de tout ça. Elle sait peser la réalité politique. Et puis on a la leçon de l'histoire. En 98, le gouvernement de Lionel Jospin a refusé de reconnaître l'État taliban. Et l'Europe aussi, après une période de flottement qui nous avait beaucoup inquiétés. Mais c'est comme ça que nous avons ensuite pu encourager.
C'est important de le rappeler, oui.
C'est ainsi que nous avons pu encourager la résistance. Voilà.
Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as été amenée à rencontrer Choukria Haïdar? Qu'est-ce qui t'a amenée à, par rapport à ton parcours de femme politique, de femme féministe?
Alors, c'est une longue histoire, oui. Hein, mais j'ai comme excuse de ne pas être vraiment jeune. Je regarde les années tournées et je me dis que dans 3 ans, je vais avoir 80 ans.
Et ça ne va pas du tout.
Ça m'impressionne beaucoup. Mais bon, c'est la réalité des choses. Ouais. Et ça explique que le parcours qui est le mien ait été à la fois lent, long et tardif. Je suis vraiment entrée en féminisme tardivement. Bien sûr, j'avais été au MLAC. Hein, ça, c'était le combat de mes 30 ans, le combat du MLAC.
Mais après, tu peux rappeler ce qu'est le MLAC pour les auditrices?
Le MLAC, c'est le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception qui avait été lancé à Paris et qui tout de suite a eu des échos, une organisation extrêmement importante ici à Marseille. Et d'ailleurs, je voudrais saluer à cet égard une féministe que tout le monde connaît à Marseille, c'est Nicole Thué, et qui a été la cheville ouvrière du MLAC et qui organisait tout ce qui se passait. Ça a été un mouvement, mais extraordinaire. Ce mouvement a illuminé la vie de beaucoup de jeunes femmes marseillaises de ma génération, et de même de plus jeunes, et même de plus âgées. Et c'est un mouvement qui nous a beaucoup unis. Moi, dans mon parcours, ça a vraiment été une prise de conscience qui a été fondamentale. Même si, par la suite, j'ai mis du temps avant de rejoindre des associations féministes, simplement parce que la vie quotidienne était extrêmement chargée. Mère de famille, professeure, j'ai fait toute ma carrière, presque toute ma carrière, 32 ans dans les quartiers nord de Marseille, à la Rose Frévalon et au lycée Antonin Artaud. C'était difficile de s'engager ensuite et en dehors dans une association. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la société aujourd'hui, y compris la société collective, les associations, les partis politiques, font pas beaucoup de place aux jeunes femmes qui, dans le fond, construisent demain. Jeunes femmes qui sont mamans aujourd'hui, qui ont des bébés, qui ont des petits-enfants, les jeunes hommes aussi qui les accompagnent, ben, il n'y a pas beaucoup de place pour eux. On les trouve pas. On les trouve pas dans nos réunions. On les trouve pas beaucoup dans nos manifestations, sauf quand c'est le samedi ou le dimanche. Et je trouve que c'est extrêmement dommage parce que j'ai une très, très grande confiance dans ce qu'ils sont en train de construire. Et là, je trouve dommage qu'ils soient...
La nouvelle génération.
Et je trouve extrêmement dommage qu'ils soient à l'écart de nos combats, de nos réflexions, de nos débats, de nos engueulades parfois. Il me manque, c'est des gens qui me manquent, il me manque beaucoup.
Tu crois que c'est plus oui par manque de temps en fait, plutôt que par manque d'intérêt?
Bien sûr, ouais. Bien sûr que c'est par manque de temps. Ouais. Alors on a cru que les réseaux sociaux allaient combler ce vide, que le internet, etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. La parole des gens, quand on ne les a pas en face de soi, ça n'est pas la même chose que lorsque on est en contact et qu'on a un contact physique et dynamique, bien sûr.
Donc, ouais, du coup, mais tu n'as pas répondu à comment tu es arrivée à rencontrer...
Oui.
Voilà.
Oui. Donc, le MLAC, ça se situe avant la loi de 75 sur l'avortement. Après, il se passe un certain nombre d'années. Au cours de ces années, j'ai rejoint un parti politique, le Parti Socialiste, où je me suis engagée en 78. Et puis, j'ai été très attachée à tout ce que faisait le PS en termes d'égalité femmes-hommes, droits des femmes et surtout de parité. Et je suis devenue, en 98, déléguée nationale aux droits des femmes au Parti Socialiste. Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré Choukria. Le 8 mars 98, la secrétaire nationale de l'époque, Michel Saban, avait organisé une manifestation dans un théâtre qui s'appelle, je crois, le théâtre de Jazé à Paris. Et là, elle avait fait témoigner plusieurs femmes venues d'ailleurs. Il y avait une femme algérienne dont je ne sais plus qui elle était. Il y avait Choukria pour l'Afghanistan et une troisième qui était, je crois, une Tunisienne qui venait parler de ce qui se passait dans leur pays. Et le passage de Choukria, qui était assez bref, devant le parterre, vous vous imaginez là qu'il y a tout le gouvernement de Lionel Jospin, tous les ministres que vous savez, Martine Aubry, Elisabeth Guigou, Ségolène Royal, François Hollande, etc., etc. François Hollande n'était pas ministre, il était premier secrétaire du Parti Socialiste, et donc moi-même. Et on a été mais stupéfaits de ce qu'elle venait raconter sur la prise du pouvoir des talibans à Kaboul et sur ce que ça signifiait pour les droits humains et pour les droits des femmes. Et ça nous a tellement, tellement frappés que dès la même semaine, une réunion de la commission femmes du Parti Socialiste, qui réunissait beaucoup de femmes à cette époque, a fait venir Choukria pour qu'à nouveau, elle reparle de ce sujet devant toutes les militantes qui étaient réunies et pour que nous lui posions la question de savoir ce qu'elle attendait de nous et ce que l'on pouvait faire. Et je ne savais pas quoi faire. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai adhéré à l'association, parce que c'était tout ce que je pouvais faire de là où j'étais.
Et ça me semble une bonne idée.
Ben, oui, je me suis dit, bon, ben, comme ça, je vais avoir des nouvelles, je vais savoir que faire. Et à partir de ce moment-là, nous sommes restés en contact. Et moi, j'étais ma petite prof à Marseille, engagée. J'étais élue à la mairie du 7e secteur dans le 13-14. J'étais déléguée à la politique culturelle. J'étais surchargée de travail. J'ai été engagée dans les associations locales qui étaient le CODIF, le CIDF Océan et le planning familial. Et donc, je touchais pas terre, quoi. Donc, l'Afghanistan, je suivais. J'ai travaillé sur la récolte de fonds pour les classes clandestines, bien entendu. Je rencontrais Choukria, toujours dans des lieux un peu à l'écart et un peu secrets.
Donc les classes clandestines, pardon, pour se peut-être oui. préciser quand même, voilà, que déjà à la première période des talibans, oui. les femmes n'avaient plus le droit carrément d'aller à l'école, les petites filles, hein, c'est ça.
Absolument. Voilà. Absolument. C'est-à-dire que dès cette période de 96, moi je ne rejoins ce mouvement qu'en 98, 99, les petites filles étaient interdites d'aller à l'école et de sortir dans la rue. On pouvait sortir qu'accompagnées d'un garçon. Et les femmes étaient fouettées quand elles étaient dans la rue. Elles étaient fouettées si elles portaient des souliers à talons. Elles étaient fouettées si il y avait des traces de maquillage. Je me demande bien d'ailleurs comment on pouvait les voir sous leur tchadri. Les Afghanes parlent pas de burqa. Le mot qu'elles utilisent, c'est le tchadri. Cette espèce de grand robe qui cache le visage et qui est grillagée, bleue.
Elles étaient fouettées dans la rue.
Étaient fouettées dans la rue. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que lorsque je suis allée pour la première fois à Kaboul en 2002, il y avait une femme afghane qui était avec nous et qui a vu passer quelqu'un qui l'avait fouettée comme ça dans la rue. Elle s'est mise à hurler en disant « il m'a battu ». Et alors le bonhomme s'est enfui rapidement. Il avait évidemment rasé sa barbe entre-temps, donc il s'était fondu dans la masse, mais c'était un taliban, c'était clair. Et elle se souvenait très très bien qu'il l'avait fouetté, battu, etc.
Donc plus tard, on parlera de la situation aujourd'hui pour les femmes, mais je pense que voilà, tout ça est en train de revenir aussi.
Ouais. Alors évidemment que ça revient, ce sont des pratiques qui vont revenir, parce que... Les talibans que nous voyons à la télévision, ils ont compris qu'il fallait travailler leur image.
Et mais ils n'ont pas changé.
Mais en fait, les talibans déjà ne sont pas très très nombreux, mais c'est un mouvement qui est extrêmement composite et qui comporte parmi eux des gens qui sont des gens extrêmement violents et pas du tout éduqués. Et qui ne connaissent que des relations frustes, brutales, violentes, en particulier à l'égard des femmes.
Misogynes.
Ils sont extrêmement misogynes. Ils ont été élevés dans cet état d'esprit. Et ils rejoignent d'ailleurs les talibans, à la fois par intérêt et puis parce que ça correspond à ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent et ce qui leur paraît le mieux pour eux-mêmes et pour leur pays. C'est-à-dire un retour en arrière, un retour à l'obscurantisme. Voilà.
À l'obscurantisme religieux.
À l'obscurantisme religieux et de tout type, hein, culturel aussi, bien sûr. Oui. Voilà, donc ces classes clandestines, il fallait récolter de l'argent parce que le problème, c'était qu'il fallait que ces institutrices qui étaient formées et ces petites filles vivent. Il fallait qu'elles aient des cahiers, il fallait qu'elles aient des crayons. Et là, on a été extrêmement soutenus par les syndicats français, par Solidarité Laïque. Et donc, on recueillait ces choses-là, on recueillait de l'argent. Et c'était nos amis de Négard, Choukria et Chantal Véron, qui s'occupaient de les faire parvenir à Kaboul. À ces femmes pour leur permettre de survivre et pour leur permettre d'accueillir les petites filles.
Et là, je pense que, enfin, je voudrais saluer le courage de ces héroïnes, en fait, de ces femmes afghanes qui ont organisé sur place ces classes clandestines.
Ouais, c'est, ouais. On n'imagine pas
quel risque qu'elles ont pris. Ouais, et aujourd'hui, ouais, je ouais. pense que la situation, pareil, il y a des femmes, elles vont résister à tout prix. Enfin,
absolument, voilà. Absolument. À tout prix. Quand elles disent aujourd'hui, en 2021, sur les enregistrements que nous avons sur les réseaux sociaux, notre voix est notre arme, c'est exactement ça. Et rien que cette expression, notre voix est notre arme, oui. C'est la marque du courage qui, pour moi, est le plus grand des courages. Et c'est vrai qu'en Afghanistan, c'est sans doute la chose qui m'a le plus marquée dans mon parcours. J'ai rencontré le courage. J'aime le courage. J'aime le courage parce que je trouve que c'est beau et que c'est une manière de transcender sa condition d'être humain, le courage. Ça nous sort de la peur, ça nous sort des choses qui nous tirent vers le bas et qui nous enlèvent l'espoir. Je trouve que le courage... est une manière de dire je suis un être humain, je le porte haut et oui, je vais affronter ce qui me fait peur et je vais l'affronter avec les autres. Il y a dans le courage à la fois un mouvement individuel et aussi une position collective et je suis très très touchée par ça. Et c'est vrai que les gens qui font preuve de cette chose-là, pour moi, ce sont les personnes qui sont nos étoiles dans la drôle de période où nous sommes et où justement il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de courage.
Ouais, c'est très très vrai ce que tu dis. Donc, tu parlais de la voix des femmes afghanes donc, qui sont complètement invisibilisées, qui n'ont plus le droit de rien, de chanter, d'exister, de... aucune possibilité en fait, elles sont complètement effacées et sous la tutelle elles appartiennent aux hommes en fait. Elles sont réduites à, d'après ce que j'ai entendu, à leur fonction reproductive, ou enfin j'ai entendu que les filles de 15 à 45 ans ont été recrutées pour être mariées, mais donc en fait violées par enfin pour comme comment on dit comme je trouve plus le mot mais je trouve plus le mot juste, mais bon, pour les soldats en fait talibans, quoi.
Oui, enfin, tout à fait, voilà, tout à fait,
comme un but de guerre, quoi.
Tout à fait. Ben, on a eu entre les mains les documents qui étaient remis par les talibans quand ils entraient dans les villes, dans leur incroyable épopée de conquête de l'Afghanistan qui s'est déroulée en juillet et en août dernier. Quand ils arrivaient dans une ville, il demandait à voir les chefs de la ville, les magistrats chefs de la ville, et il remettait un certain nombre d'indications. Et parmi ces indications, il y avait le fait qu'ils demandaient, ils exigeaient la liste des filles de plus de 14 ans et des veuves de moins de 45 ans, de façon à les donner, parce qu'il n'y a évidemment pas du tout, il n'est pas du tout question de mariage. En fait, c'est des enlèvements et des viols de guerre. Voilà. À leurs soldats, lesquels n'avaient pas qu'une femme, bien entendu, et pratiquaient la polygamie. Donc c'est épouvantable. C'est ce qui a suscité la fuite de beaucoup de familles depuis les départements éloignés vers la ville de Kaboul, parce que les gens pensaient que Kaboul allait être à l'abri, que s'ils étaient à Kaboul, ils pourraient mieux se cacher et qu'ils seraient à l'abri des exactions des talibans. Il faut savoir aussi que dans un certain nombre de départements, dont le Panjshir, les talibans, quand ils sont arrivés, ont renvoyé les personnes qui y habitaient pour donner les maisons à leurs soldats et à d'autres personnes qui étaient acquises à leur cause. Et que donc, c'est cette espèce de déplacement de population est quelque chose qui est épouvantable à vivre.
Et sinon, je voulais savoir ce qu'avait été fait aussi donc, avec Choukria Haïdar. Je crois que tu m'avais parlé aussi qu'il y avait eu un travail politique de construction de la constitution pour l'Afghanistan.
Oui.
Et c'était, le but, c'était de faire entrer la notion d'égalité femmes-hommes. Est-ce que tu peux rappeler ça? Quand est-ce que c'est arrivé
Oui, tout à fait. Dès le début... Choukria, j'ai dit tout à l'heure que l'association Négar, c'est une association qui est à la fois de soutien des femmes d'un point de vue pratique et matériel, et j'ai expliqué, j'ai donné des exemples de ce que nous avions fait, mais c'est aussi une association politique. C'est-à-dire que notre conviction est que nous ne sommes pas dans un domaine qui est celui de la charité, on est dans un domaine où il faut organiser nos convictions féministes, universalistes, en travaillant sur des textes et des textes juridiques qui permettent aux femmes d'avoir un soutien juridique pour leurs droits et pour l'égalité. Et donc Choukria avait organisé en 2000 à Douchanbé au Tadjikistan la première conférence des droits des femmes afghanes qui a regroupé des femmes afghanes qui sortaient de l'Afghanistan, qui étaient en exil de l'Afghanistan, qui s'étaient enfuies. Il y en avait, je crois, 200 ou 300. Elles étaient très nombreuses. Et était présente aussi une trentaine d'observatrices occidentales dont nous connaissons, dont vous connaissez très bien les amies féministes certaines. Annie Sugier était présente.
Oui.
Voilà, il y avait un certain nombre de femmes qui étaient là.
De la Ligue internationale des droits des femmes,
Et donc, moi, je n'y étais pas. Je n'y étais pas pour la raison que Douchanbé s'est déroulé pendant la période scolaire et que je ne pouvais pas lâcher mon poste pour aller à Douchanbé. Mmh. Ça aurait beaucoup étonné mon proviseur. Mmh. Et j'ai suivi de loin ce qui se passait. Et donc, durant cette conférence de Douchanbé, l'objectif, c'était d'écrire une charte des droits fondamentaux de la femme afghane. Cette charte, elle comportait de très nombreux articles. Nous l'avons encore. Elle est sur le site de l'association Négar. Et en particulier, l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et cette charte a été signée tout de suite par beaucoup de femmes afghanes et occidentales. Elle a été signée en France énormément. Elle a été signée aux États-Unis beaucoup. Je crois qu'on a eu plus de 2 millions de signatures. Et un des premiers signataires...
C'était en 2002, ça.
C'était en 2000.
En
2000. Oui. C'est pourquoi ça se passait à Douchanbé, parce que l'Afghanistan, on ne pouvait pas y aller.
D'accord,
c'était sous la botte talibane.
D'accord.
Et donc, Massoud, depuis le Panjshir, avait signé aussi cette charte lui-même. Il était en termes très proche avec Choukria et tout à fait convaincu de la nécessité de l'égalité, puisque le jour où il a été assassiné, Choukria devait le rencontrer et lui avait proposé de venir visiter une école qui était une école de filles. Et il voulait que Choukria vienne pour voir le travail qu'il avait fait dans son propre village de créer cette école de filles où les filles pouvaient aller à l'école à égalité avec les garçons. On sait ce qui s'est passé. Les faux journalistes soi-disant belges ont eu rendez-vous avec lui avant elle. Et il a été assassiné par une bombe qu'il portait. Mais Massoud était dans cette dynamique d'égalité femmes-hommes, ce qui n'est pas du tout évident pour la génération d'Afghans à laquelle il appartenait. Donc, ce projet de l'égalité, nous savions très bien qu'il fallait que ça passe par la loi et la constitution. Et que la première chose qu'on revendiquerait quand les talibans seraient partis, ça serait une constitution d'Afghanistan dans laquelle il y aurait un article qui poserait l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça a été le combat de Choukria et de Négar avec beaucoup d'autres associations de terrain en Afghanistan avec lesquelles elle est en lien et en amitié pour imposer cet article. C'est très important pour les Afghans. Parce qu'une chose qu'on ne sait pas, c'est que les Afghans ne sont pas à leur première constitution. Je crois que c'était la 7e constitution, la constitution de 2004. Et donc, ils savent ce que c'est. Ils savaient parfaitement quelle était l'importance de ces textes-là. Et ils avaient besoin de textes à opposer à ces textes que les talibans ressortent sans arrêt, cette espèce de charia à leur mode qu'ils ressortent régulièrement. Là, aujourd'hui, en 2021, j'ai vu que les talibans voulaient revenir à la constitution précédente des années 60, qui est une constitution qui avait été votée à l'initiative du roi de l'époque et dans laquelle les femmes n'ont aucun droit et qui est calée sur la charia. Donc évidemment, ça leur convient très très bien aux talibans.
Donc actuellement, la constitution en Afghanistan, elle est restée sur... c'est laquelle, en fait, du coup ?
Eh bien, la constitution du régime afghan officiel, c'est la constitution de 2004 qui reconnaît l'égalité entre les femmes et les hommes.
D'accord, donc ça avait été reconnu,
Absolument, elle a été votée, et de 2004
ça, c'est
à
extraordinaire,
2000...
en fait.
Mais bien sûr. Je crois que le texte dit quelque chose comme « Les Afghans et les Afghanes sont égaux en droit et en devoir ». Ce qui, à la lecture, m'avait beaucoup étonnée dans cette formulation. Mais à la réflexion, j'avais trouvé ça tout à fait intéressant.
Et donc, il y a eu ensuite une période où les femmes afghanes ont pu avoir des droits, de la liberté, pouvoir étudier.
Mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. D'ailleurs, ça a été un truc extraordinaire de voir ça. Première fois que je suis allée en Afghanistan, donc en 2002, c'était... Donc de 2001, la période où les talibans avaient été éliminés grâce au soutien aux Nations Unies, aux Américains, mais aussi aux forces afghanes. Il ne faut pas oublier que la Ligue du Nord, les troupes de Massoud, qui avaient été supprimées le 9 septembre 2001, parce que nous venons d'évoquer, il ne faut pas oublier que tous ces soldats, ils étaient engagés dans ce combat aussi, qui se sont battus, beaucoup sont morts pour reconquérir la ville de Kaboul. Et donc ça se passe en 2001, et puis très vite, les choses essayent de l'espoir renaît. Choukria veut tout de suite que nous fassions une conférence dans Kaboul libéré. Et donc, nous arrivons à Kaboul en 2002. Et moi, je viens mandatée par le Parti socialiste. François Hollande me confie la mission d'aller à Kaboul pour représenter notre soutien aux Afghanes et aux Afghans. Et aussi soutenue par les amies féministes ici à Marseille. Et très vite, d'ailleurs, des associations comme la Marche mondiale des femmes, comme le collectif 13 de l'époque, s'engagent à mes côtés. Et puis, je dois dire que d'autres encore s'engagent aux côtés des femmes afghanes. Par exemple, au sein du Conseil général de l'époque, nous recevons un soutien formidable de Marie-Arlette Carlotti, qui est à ce moment-là vice-présidente du Conseil général, mais qui avait précédemment été députée européenne et qui, dans ce contexte-là, avait reçu Choukria Haïdar à l'Europe et avait adhéré à sa conviction politique de ne pas reconnaître l'État taliban. Et Marie-Arlette Carlotti a été un soutien formidable, à la fois sur le plan de la conviction politique, on avait besoin de politiques qui nous soutiennent, mais aussi pour nous aider financièrement. Et le département des Bouches-du-Rhône, je le remercie encore très vivement de s'être engagé à nos côtés sur des programmes qui s'appelaient « Femmes en marche pour l'Afghanistan » et qui réunissaient des observatrices venues de tout un tas de pays. Il y avait un certain nombre de Françaises, il y avait des Australiennes, il y avait Suissesses, Américaines, et puis ça m'échappe d'où venaient les autres. On était donc une trentaine d'observatrices et arrivées à Kaboul en 2002. Et ce que nous avons découvert nous a vraiment énormément touchés. Je voudrais saluer, oui, aussi une amie qui était présente lors de cette conférence, Catherine Bonnet, qui est pédopsychiatre et qui, elle, venait missionnée par la Fondation de France pour faire un travail d'examen de la situation psychiatrique à Kaboul. Et elle a fait un magnifique
Catherine
rapport.
Bonnet, je la connais par rapport aux violences sexuelles sur les enfants, l'inceste qu'elle a...
C'est bien la
voilà.
même.
Voilà, oui, d'accord.
Et elle est marseillaise aujourd'hui.
Ah, d'accord.
Voilà. Et Catherine a fait un rapport qui s'appelle « Des mille poussières aux mille malheurs », qui est absolument formidable sur la condition des femmes emprisonnées, mises de côté en psychiatrie, qui est extrêmement intéressant et bouleversant à cette occasion. Donc nous découvrons à ce moment-là, en 2002, quelque chose qui est épouvantable. C'est terrible. Et à plusieurs reprises, il nous arrive de devoir nous mettre à l'écart pour pleurer toute seule, tellement ce que nous recevons comme choc d'émotion est terrible. Donc lors de cette conférence qui se déroule dans un grand cinéma qui s'appelle Cinéma Park à Kaboul, nous sommes donc une trentaine d'observatrices. Oui, il y a aussi Sylvie Orsoni, professeure au lycée Thiers et qui est là, présente et qui participe à cette conférence. Donc nous sommes une trentaine d'observatrices et il y a 500 femmes afghanes qui viennent. Et qui viennent parce qu'elles savent que parmi nous, il y a des médecins. Et elles arrivent avec des petits-enfants dans les bras, dont certains sont malades, très, très, très malades, très malades. Et on voit bien qu'ils ne vont pas survivre. Et tout ça, c'est excessivement bouleversant. Et il y a eu en même temps une chaleur, elles portent un désir de nous rencontrer. Et je me rappelle une qui me dit « Ne nous oubliez pas ». Et c'est tellement, tellement bouleversant que jusqu'à ce jour, ça résonne encore au fond de moi, ces mots. Et non, bien sûr, on ne les oublie pas. On ne les oublie pas. Et là, aujourd'hui, en 2021, je ne les oublie pas, elles. Et je n'oublie pas leurs filles. Et je n'oublie pas leurs petites filles non plus. Et puis aussi leurs garçons, parce que les garçons aussi ont souffert, ont eu leur part de malheur dans toute cette affaire.
Et comme le temps passe vite, en fait, peut-être que tu peux nous parler donc du coup de la situation aujourd'hui, de ce que fait Choukria aujourd'hui avec Négar, de la mobilisation, de ce qu'on peut faire.
Alors, aujourd'hui, que faisons-nous ? Aujourd'hui, nous avons lancé le 10 août un appel, qui était un appel de l'association Négar Soutien aux femmes d'Afghanistan, qui a beaucoup circulé grâce à France Inter et grâce aux médias, et qui a fait que nous avons reçu énormément, énormément de courriers de soutien très touchants de partout en France. Il y a des moments où, comme ça, on est vachement content d'être dans ce pays et de voir que les gens peuvent être aussi gentils, aussi généreux. Et puis, on a reçu beaucoup d'adhésions, etc. Énormément de demandes de participation à des conférences et à des émissions, etc., etc. Donc, Choukria se déplace beaucoup pour participer partout où on l'invite, de façon à faire passer ce message. Nous rencontrons beaucoup de personnalités politiques aussi. Nous avons été invités à l'Assemblée nationale à rencontrer Marie-Georges Buffet. Nous avons eu un entretien avec François Hollande qui nous importait énormément sur la situation, parce que nous voulions aborder la question du regard que porte l'Europe sur l'Afghanistan et savoir comment ce regard s'était constitué. Et c'était très intéressant. Et merci à toutes les personnes qui nous ont invités. Alors, ce que nous souhaitons faire, nous souhaitons renouveler les actions que nous avons conduites dès 2000. Relancer notre projet Femmes en marche pour l'Afghanistan. Relancer un projet de charte des droits des femmes afghanes. Relancer à nouveau, avec toutes nos amies féministes de partout, peut-être une conférence, et on n'est pas encore bien fixé sur là où elle aura lieu, mais on le dira dans les jours prochains. Parce qu'il nous semble qu'il faut réunir tout ce pouvoir féministe, toute cette puissance des femmes, toute cette volonté de soutien, toute cette reconnaissance que nous avons de notre condition identique. Il faut que nous arrivions à réunir tout ça et apporter un soutien extrêmement fort aux femmes d'Afghanistan en les faisant participer. Alors ça m'amène à dire que si je compare la situation de 98, qui est la date à laquelle j'ai commencé à travailler sur ce sujet, et aujourd'hui, la situation est extrêmement changée. Je ne parlerai pas de ce qu'on dit dans les journaux des talibans 2.0. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de la résistance. Et je veux dire qu'on voit bien qu'en Afghanistan, vous avez plein de gens qui sont en train de résister, qu'il va falloir soutenir, qu'il faut qu'on soutienne, qu'il faut qu'on aide, qu'il faut qu'on aide à partir quand c'est trop difficile. Ça, c'est un premier point. Mais dans les réseaux, chez les Afghans qui sont dans la diaspora, en France, aux États-Unis et ailleurs, on a toute une génération de jeunes Afghans qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui ont fait des études formidables dans les pays d'accueil et qui, à la différence de ce qui se passait dans les années 98, sont extrêmement mobilisés pour aider leur pays et reconstruire leur pays. Et ça, c'est formidable. Et moi, ce que j'aimerais tellement, c'est que le mouvement auquel j'appartiens, il soit aussi la chose de ces jeunes Afghans que je trouve extraordinaire et que ceux que je rencontre, ils sont très enthousiasmants parce qu'ils ne sont pas du tout dans une aventure individualiste, ils sont complètement dans une aventure collective et de générosité. Et ça, je trouve ça formidable. Je me dis, je leur fais confiance et alors on va sortir de ces années de plomb et on va sortir de cet obscurantisme parce que ça, c'est ça qui va gagner. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que ça va gagner. Voilà, alors je salue ici tous les Afghans qui sont ici à Marseille, et il y en a beaucoup qui sont arrivés et que je voudrais assurer du soutien de Négar, et je leur dis on va se rencontrer, rencontrons-nous, ça me paraît très important. Et je remercie Nadia Guenet et Révolution Féministe de m'avoir donné la parole sur l'Afghanistan. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route entre cet aller-retour entre 98 et 2021. C'est pour nous tellement terrible de voir se reproduire une histoire comme si rien ne s'était...
C'est ça, ouais.
Rien ne s'était passé entre deux, alors qu'il s'est passé tellement de choses.
Alors qu'entre deux, voilà, il y a... Mais moi, je te remercie énormément d'être venue. J'ai appris plein de choses. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, là, si quelqu'un écoute
Si vous écoutez, mettez-vous en lien avec nous, allez sur le site de Négar, si vous pouvez nous aider, aidez-nous, mais c'est pas du tout obligé. Adhérer à l'association, bien entendu, c'est un moyen d'être en lien, c'est un moyen de suivre toutes les actions que nous allons avoir, puisque nous tenons au courant nos adhérents et nos adhérentes des actions que nous allons conduire. Le site vous tient au courant des actions que nous faisons et du travail qui est fait par Choukria. Rejoignez-nous, venez nous aider, bien sûr.
Okay. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci. Du coup, j'avais une deuxième partie de prévue. Je vais rendre hommage à Marie-Paul. Oui. Et là, je vais faire une pause musicale. Bienvenue. Et je te remercie beaucoup, Geneviève. Mais peut-être tu pourrais dire deux mots sur Marie-Paul. Comme ça a fait la transition, puisque c'était une amie commune et une grande féministe. Je te laisse dire deux mots en fait, puisqu'après je vais en parler lui rendre mon hommage, mais j'aimerais que tu étais là aussi. Enfin bref, je te laisse parler de Marie-Paul si tu veux bien.
Oui, c'est un grand chagrin le départ de Marie-Paul. Elle nous manque et elle me manque personnellement tous les jours.
Oui, moi aussi.
Quand rentrer dans ce combat à nouveau, ce combat pour les femmes afghanes. Depuis le 10 août, sans elle, c'est terrible. Je pense à elle, mais à tout moment, je me dis si elle était là, sa culture, son ouverture d'esprit, son excellente connaissance de tous les réseaux, cet esprit scientifique cartésien qui était le sien, tout ça nous manque énormément sur le plan intellectuel, sur le plan de l'amitié, sur le plan... vraiment, je suis d'une tristesse qui est inconsolable de cette perte. On ne se connaissait pas depuis très très longtemps, mais on s'était bien reconnus comme travaillant dans le même sens. Et vraiment, je te remercie de lui rendre fémage à l'instant, à la suite, parce que on a besoin d'entendre parler d'elle et il faut qu'on continue à parler d'elle et à porter très haut tout ce qu'elle a fait, parce qu'elle a fait un travail extraordinaire tous ces derniers mois.
Oui. Bon, ben voilà, je vais faire une pause musicale et puis je passerai beaucoup d'interventions, parce qu'il y a eu un fémage qui s'est fait à Marseille, tu y étais, j'y étais, donc il y avait tout un réseau féministe et aussi un réseau politique. Il y avait un fémage politique, un fémage des féministes et aussi du lycée Thiers. Et voilà, c'était très très émouvant, très fort, et donc je vais m'appuyer sur le son que j'ai pu prendre à ce moment-là.
Je salue au passage, si tu permets, Nadia, je salue l'organisation qui a été faite par Daniela Lévy, parce que c'était vraiment extraordinaire.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Ce fémage.
Oui. Bon, eh bien, je te libère, Geneviève, pardon, j'allais dire. Et puis, tu es la bienvenue dans l'émission quand tu veux. Ce créneau, t'es toujours ouvert. Merci beaucoup.
Merci.
Donc voilà, je vais vous faire une petite pause musicale du coup, avec Daughters for Sale de Sonita Alizadeh, donc la rappeuse afghane, que vous devez connaître, j'ai déjà passé sur Les filles à vendre. Voilà, je vous laisse écouter.
اما ای کاش برام برشم و مرور شه کاش بفهمیم نگفته زن بری خون میشه چیمو شاد باشیم به محتاج به آرامشو به تنها بگذاریم بیزار از آرایشو صورتی که بوده این جارایشی درمون نمی کنه کاری که شما کردیم غافر با مثلمون نمی کنه خدا زجو بره وقتی بری و بی احساسی در رو خوش کسی بری که اون نمیشناسی دیگه ادامه دادن از هم به سختیه بریم خوشی شما نهایت خوشبختیه اما به من نگاه بجریم از یاد نبر کسی که با مرزا بالا سرش ما بود تا سهر به میرو و از روز بشه با دست برو اما نگران و شما دست کی بسپارو به میرو مگی دلتنگه بشو دل شما عروس خونه میبرو میگذارو برش شما نگذاری او هم مثل مرش گاهی جاری باشه گاهی شنو نفوشی بذاری یادگاری باشه
Je reprends le micro. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Donc, je me reprends de mon émotion parce que je viens de serrer Geneviève dans mes bras en la remerciant. Puisque c'est pas évident de faire la transition sur Marie-Paul, le fromage de Marie-Paul, et de voir toute l'émotion qu'elle a encore par rapport à la perte de Marie-Paul. Mais je ressens la même chose, donc excusez-moi. Donc, voilà. Je vais réussir à donc je vais m'appuyer sur toutes les femmes et les hommes qui étaient là pour le fumage de Marie-Paul. Donc je serai moi seule. Un fumage qui s'est fait à Marseille le 2 octobre, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Et je vais passer des extraits sonores de des nombreux discours, enfin c'est pas vraiment des discours, hein, vous allez voir, qui ont été faits en l'honneur de Marie-Paul. Donc avant ça, comme j'ai passé la pause musicale par rapport à la situation en Afghanistan, c'était Sonita Alizadeh que vous venez d'entendre, la chanteuse afghane qui rappe contre les mariages d'enfants. Donc Sonita a échappé, donc les mariages forcés se pratiquent en Afghanistan et elle a échappé elle-même à un mariage forcé plusieurs fois. Donc en fait, les paroles de cette chanson, c'est « Je crie pour compenser la vie de silence d'une femme. Je crie au nom des blessures profondes sur mon corps. Je crie pour un corps épuisé dans sa cage. » Un corps qui s'est brisé sous les étiquettes de prix que vous mettez dessus. Voilà, c'est un tout petit extrait. The Brides for Sales. Donc, filles à vendre. Voilà. Donc, pour commencer, mon fumage à Marie-Paul Grosse-Tête. Vous dire que Marie-Paul était une militante féministe universaliste, abolitionniste, à l'action nationale et internationale. Marie-Paul était aussi sur le terrain, à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, le moteur et le lien de nos mobilisations féministes collectives. Donc, elle faisait partie de mon réseau de militantisme, elle était... une grande référence pour moi et une grande référence pour de très nombreuses féministes françaises et même à l'étranger. Donc depuis plusieurs années, Oser le féminisme 13, Femmes solidaires Marseille et l'Assemblée des femmes, en lien avec la Marche mondiale des femmes PACA, ont joint leur effort, y compris pendant la période du confinement, pour organiser des conférences et des webinaires sur les enjeux des élections européennes pour les femmes, sur la prostitution et la mise en application de la loi, sur l'évolution des droits des femmes depuis la CSW de Pékin, comme pour manifester dans la rue le 8 mars, le 25 novembre, le 5 juin dernier à Nice, lors de l'appel de Toutes aux frontières, en soutien aux femmes migrantes. Donc en fait, Marie-Paul donc, était présidente de Oser Féminisme 13, et donc grâce à elle, il y avait...
un espèce de renouveau du mouvement féministe universaliste abolitionniste à Marseille. Donc là, j'ai rappelé tout ce qu'on avait fait ensemble. Et donc, Marie-Paule avait des capacités de travail, d'organisation, de bienveillance, une écoute qui avait permis de rassembler nos actions et les actions de nombreuses militantes et d'associations féministes, donc de faire avancer, de renforcer le mouvement abolitionniste laïque contre vents et marées. Elle avait un féminisme joyeux, lucide. Elle avait de la diplomatie dans les relations humaines, faite de respect de l'autre et des différences. Elle avait un souci permanent de transmettre aux plus jeunes, qui sont reconnus de toutes et tous. Et Marie-Paule travaillait aussi au niveau du collectif féministe pour le forum Génération Égalité. Elle faisait partie de très 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 nombreux collectifs. Elle était engagée dans de très très nombreux collectifs. Et donc elle a laissé des travaux de réflexion inestimables. Et en fait, donc nous avons perdu une amie, une tisseuse de liens, qui réussissait à faire se rencontrer des univers qui s'ignoraient. Alors je vais vous faire écouter, pour commencer, sa voix. Enfin, c'est Marie-Paule qui parle, il faut que je le retrouve. Ah voilà, donc en fait, vous allez écouter Marie-Paule, juste deux petites minutes d'un extrait que j'ai trouvé sur le site d'Oser le féminisme, où en fait elle faisait une rencontre avec les jeunes d'un centre social, et elle leur explique voilà ce que c'est que le féminisme pour elle. Donc je vous laisse écouter.
Bonjour, quels sont les objectifs de l'association Osons le féminisme?
Alors, les objectifs d'association Oser le féminisme, c'est fondamentalement une association qui a pour objectif de féminister la société. Alors, qu'est-ce que ça veut dire féminister la société? C'est-à-dire que le but de cette association, c'est de promouvoir l'idée du féminisme au travers de la société. Et qu'est-ce que c'est que l'idée du féminisme? C'est une idée révolutionnaire, c'est l'idée selon laquelle les femmes sont des êtres humains. Donc les femmes sont des êtres humains au même titre que les hommes, c'est-à-dire que les femmes au même titre des hommes, ce sont des personnes qui peuvent avoir envie de bien gagner leur vie, aussi bien que les hommes. Pour l'instant, en moyenne, elles gagnent 25% de moins dans leur salaire que les hommes. Ça veut dire, comme un homme, vouloir prendre sa voiture à 8 heures du soir, sortir, aller au cinéma, rentrer à 2 heures du matin, faire la fête avec des copains, et ne pas risquer de se faire agresser sur le chemin, et de ne pas avoir peur de sortir en ville toute seule. Ça veut dire que les femmes sont aussi des gens qui peuvent avoir envie de faire du sport ou pas, de devenir présidente de la République ou pas, d'avoir des enfants ou pas, d'avoir des rapports sexuels ou pas, d'avoir un compagnon ou une compagne, ou de vivre seule, de vivre en famille ou pas, de pouvoir bénéficier de toutes ces libertés-là dont tous les êtres humains devraient pouvoir bénéficier.
Voilà, donc c'était les jeunes du centre social des Amandiers qu'elle avait rencontrés. Et voilà, donc je vais vous faire écouter maintenant Audrey Gassian, qui est adjointe au maire de Marseille en charge de la politique de la ville et des mobilités, suivie de Nathalie Tessier, qui est conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc c'était dans la partie du feumage politique qui a été rendu à Marseille, donc samedi 2 octobre. Alors juste, il faut juste que je le retrouve, le bon audio. Excusez-moi. Voilà. Donc c'est celui-là. Je vous laisse écouter.
Je me présente, donc je suis Audrey Gassian, je suis adjointe au maire de Marseille. Je représente aujourd'hui aux côtés de ma collègue, de mon amie Nathalie Tessier, monsieur le maire. Et je le remercie de cet égard pour nous, pour Marie-Paul. Je sais qu'il sait la valeur et la difficulté des combats féministes. Nous en avons partagé beaucoup. Je sais qu'il sait aussi et il connaissait la valeur de Marie-Paul. Il a été touché par sa disparition, elle qui n'habitait pas Marseille, mais qui a œuvré professionnellement et dans son militantisme pour notre ville. Ce fémage, avec cette mise à disposition d'un lieu, avec la représentation de monsieur le maire assurée par deux élus de sa majorité, donne aussi à ce moment quelque chose de solennel, d'une reconnaissance collective de ce que Marie-Paul a apporté à Marseille. Et elle a apporté beaucoup. Je passe maintenant la parole à madame Nathalie Tessier, qui est conseillère municipale déléguée aux droits des femmes.
Merci Audrey et merci Daniela. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous dire des petits mots légers pour une peine si lourde. Marie-Paul avait une force rare, c'était une rassembleuse. C'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit quand j'ai appris sa disparition. Elle avait compris la nécessité vitale de rassembler toutes les forces féministes pour faire avancer les droits des femmes. Présente dans toutes les réunions du travail sur les droits des femmes, elle apportait ses connaissances, ses réflexions et sa bienveillance. Elle apportait, en fait non, elle partageait. Constructive, toujours, elle donnait confiance, elle mettait en valeur les interventions, les propositions et les idées des intervenantes. Combien de fois elle envoyait des petits messages en disant « c'est bien ce que tu as dit, c'est bien, continue ». J'ai appris avec Marie-Paul la valeur précieuse du mot « sororité ». Je me souviens de l'émotion des associations féministes quand elles ont été, je cherche Geneviève du regard, quand elles ont été officiellement associées à la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre à l'hôtel de ville de Marseille. C'est la première fois en 25 ans, m'ont-elle dit. Je me souviens des débats organisés par mes services DDF, chez Adjira qui est dans la salle, celui du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes avec des historiennes marseillaises, Marie-Paul était présente et était précieuse. Je me souviens aussi du débat sur la lutte contre le système prostituteur, où Marie-Paul avait dénoncé avec force ce système de traite humaine insupportable. À la fin de ce débat, très riche, nous nous étions retrouvés pour boire un coup, un verre, dans un bar juste à la sortie de la maison de la Cité des Associations. Et Marie-Paul, avec son sourire irrésistible, avait demandé spontanément à un jeune passant qui était là, qui passait devant notre table, « S'il vous plaît, prenez-nous en photo. » Et il avait fait avec beaucoup de gentillesse. « On ne peut pas partir sans photo. » C'était le 23 juin de cet été. Deux jours plus tard, le 25, Marie-Paul organisait un débat webinaire, excusez mon anglais que je ne connais pas, avec comme thème une réflexion sur l'analyse de l'évolution des droits des femmes et des propositions à faire 25 ans après la quatrième conférence mondiale qui s'était tenue à Pékin sur les femmes. Une fois de plus, Marie-Paul a mené avec brio le débat, donné la parole, mettant en avant la valeur, les propos des intervenantes. Je retiens une capacité de travail, d'écoute, de générosité et de gentillesse, un féminisme qui me manque, qui nous manque tant. Je voulais juste dire une citation de Christine Taubira, je ne sais pas si Marie-Paul, mais je pense que ça lui plaira. Nous, les femmes, sommes la moitié du ciel et même un peu plus. Nous entendons être la moitié de tout, pas vos moitiés, la moitié de tout. Et surtout, surtout, être au moins la moitié partout où se prennent les décisions. Le monde qui vient devra s'habituer partout à la présence, partout la présence forte de nos filles, de vos filles. Je vous remercie.
Je vais quand même dire quelques mots. Je pense que quand on rejoint le...
Alors, attendez, pardon. Donc, je vais vous faire écouter maintenant Gaëlle L'Enfant, qui est conseillère municipale d'opposition à Aix-en-Provence.
Merci. Je passe la parole à Gaëlle L'Enfant, conseillère municipale à Aix-en-Provence.
Merci, Nathalie. Vraiment un très grand merci à Daniela pour avoir organisé cette magnifique après-midi. Je suis Gaëlle L'Enfant, alors je ne sais pas si je suis une représentante politique, une féministe ou une amie, peut-être un peu de tout cela. En effet, je suis élue à Aix-en-Provence, une ville de droite, et quand on est élue à Aix-en-Provence et qu'on est féministe, on est tellement heureux d'avoir Marie-Paul à ses côtés. Parce que vous savez, à Aix-en-Provence, figurez-vous qu'il n'y a aucune directrice. Il n'y a que des directeurs. Et figurez-vous que je ne suis pas conseillère municipale, mais je suis conseiller municipal. Et puis à Aix-en-Provence, nous avons une routière. Eh oui, Adolphe Thiers. Alors cette rue Marie-Paul était de celles et ceux qui ont mené et qui mènent encore le combat pour que cette rue soit transformée. Parce que juste en face, il y a le palais de justice et le fameux procès d'Aix. Ce serait tellement beau que cette rue s'appelle Gisèle Halimi. Alors voilà, Marie-Paul, eh bien, c'est des centaines de souvenirs. C'est une salle de Pays d'Aix-Assaut, avec Audrey d'ailleurs, qui était précédemment présidente d'OLF Pays d'Aix. Audrey, avec qui nous avons aussi mené des combats féministes à Aix. Et puis voilà, c'était l'engagement d'oser le féminisme à Aix. Et quelle respiration d'avoir cela dans cette ville tellement de droite. Et puis Marie-Paul, c'était sur le cours Mirabeau. Et on riait, en effet Nathalie, on riait de nos avancées parce qu'à chaque petit progrès, eh bien on le marquait ce progrès. Et on le disait, et ça se voyait, et on le savait, nous, qu'on allait vers l'avenir comme cela. Je me souviens aussi, dans un bistrot, Patrick Jean était venu, Patrick Jean que j'avais rencontré à Paris et qui était devenu un ami aussi, qui a réalisé un très beau documentaire sur la domination masculine. Et Patrick Jean était venu parler de patriarcat. Et puis une autre salle, une autre réunion. Et je me souviens d'une réunion en particulier, ça sera juste un private joke, mais Marie-Paul, tu étais furibarde du peu de place laissée aux femmes. C'était chez nous, c'était chez toi aussi, c'était chez vous, Jacques, mon capitaine. Et puis on l'a refait, le monde, on le refaisait. Et puis au printemps dernier encore, on était tellement fiers du succès de cette manifestation. Rebaptiser la rue Thiers en rue Gisèle Halimi. Il y a eu un jeune homme lors de cette manifestation qui est venu tout seul avec un t-shirt, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Sur ce t-shirt, c'était marqué « Feminism is a cancer ». Le féminisme est un cancer. Il est resté là, une bonne demi-heure, à nous provoquer. Et c'est dans ces moments-là, vous voyez, qu'avec Marie-Paul, on se disait qu'on avait bien raison de continuer nos luttes, qu'on avait bien raison de continuer ces combats, et que le monde avait tellement besoin de nous, et qu'on avait tellement besoin de faire combattre, de faire entendre à ces gens que le féminisme n'est pas un cancer, que le féminisme, c'est juste la demande d'égalité entre les femmes et les hommes, et que nos combats sont tellement légitimes. Alors j'en ai tant des souvenirs. Les journées du matrimoine, on a réalisé les journées du matrimoine à Aix-en-Provence grâce à Marie-Paul. Mais vous, si vous avez habité un peu à Aix, vous pouvez comprendre ce que signifie cela. Si vous avez fait un peu de politique à Aix, vous comprenez l'importance de ce que c'est que de voir qu'il y a des gens qui viennent, qui sont là, que ça intéresse et qui disent c'est bien ce que vous faites. Alors, la sono à roulette, c'était un petit peu pénible parfois. Les orgas des manifs, c'était un petit peu douloureux aussi. Mais enfin, en effet, Nathalie l'a dit, Marie-Paul, c'était une femme de rencontres, de liens. Et on a eu tellement de rencontres. Tous ces liens, Marie-Paul, que tu savais créer, ta gentillesse, ta compréhension, ton engagement, tout ça. Vous savez, quand... alors là, c'est la militante politique qui va parler, et féministe aussi, mais quand on est engagé comme ça, parfois c'est fatigant, hein. Parfois, vous avez des moments où faut vous lever le matin, hein, faut le recommencer, le combat. Et sans doute d'autres auront le même réflexe que moi. Moi, je convoque des visages, des personnes, des héroïnes du quotidien. Et je me dis que pour elles, je ne peux pas laisser tomber. Et Marie-Paul est de celle-là, toujours. Tu as planté des graines qui germent. Et que nous sommes nombreux et nombreux à regarder aujourd'hui. Mais on ne fait pas que les regarder, on les aide à grandir. Alors tu n'es plus là, et c'est terrible. Mais en fait, tu es là quand même. Parce que ce que tu as fait et qui tu étais, sur Aix, mais ailleurs aussi, mais sur Aix d'abord, permettez-moi s'il vous plaît, a imprimé une marque absolument indélébile. Une rue Gisèle Halimi. Et puis une rue Marie-Paul Grosse-Tête. Voilà ce que j'ai comme projet sur Aix. Et voilà pourquoi à Aix, un jour, la gauche gagnera. Merci.
Voilà. Donc c'était Gaëlle Lenfant, conseillère municipale d'opposition à Aix-en-Provence. Et Je voulais dire aussi que le son que je passe actuellement a été pris par Yamine, qui travaille à Radio Galère, que je remercie, et qui a aussi une émission d'actualité sur Radio Galère. Donc je vais poursuivre avec la voix de Marie-Paul. Elle m'avait fait le plaisir de venir comme Geneviève tout à l'heure plusieurs fois dans cette émission. Et je vais vous faire passer un tout petit extrait de la première fois où elle était venue pour cette émission. C'était une émission sur la prostitution. Et voilà, je vais vous laisser l'écouter tout de suite. Ah, attendez, voilà, j'ai perdu le truc. Voilà, je vous laisse écouter. Revenue.
Alors écoute, donc on a choisi ensemble cette question de la prostitution qui est un sujet très très vaste à aborder en une heure. On va essayer d'aborder beaucoup d'aspects. Je vais commencer par citer une phrase de Victor Hugo, 1862. L'esclavage vient d'être aboli et il déclare, on dit que l'esclavage a disparu de la civilisation européenne. C'est une erreur et il ne pèse plus que sur la femme et c'est la prostitution. Donc la prostitution apparaît là comme une forme d'esclavage qui s'exerce exclusivement sur les femmes, selon Victor Hugo à cette époque-là. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par essayer de définir ce qu'on entend par prostitution, parce que la manière même de définir ce qu'on entend par prostitution permet de dégager différentes façons de l'aborder. Et puis, moi, évidemment, je suis là pour vous proposer l'analyse féministe de ce qu'on entend par prostitution et la confronter avec peut-être d'autres façons de voir les choses. Donc, voilà, prostitution, ça vient d'un mot latin, prostituere, qui veut dire se vendre. Donc, dans la prostitution, il y a l'idée qu'on va réaliser un achat et une vente. L'un achète, l'autre vend. Et l'objet de la vente ou de l'achat, ce serait un acte sexuel. Donc ça, c'est une façon qui ne correspond pas nécessairement à la vision de tout le monde, parce que parler d'acte sexuel dans la prostitution, ça suppose qu'on parle de sexualité, de sexe. Et donc la sexualité, c'est une relation entre deux individus qui vont partager un même désir à un même moment et qui vont s'engager dans un acte qui est donc dit sexuel. Là, dans le cas de la prostitution, ça peut pas être le cas, puisqu'il y a une inégalité entre les deux partenaires, puisque l'un va imposer son désir à l'autre, qui est soumis à ce désir. Par conséquent, on va considérer qu'il n'y a pas une situation symétrique, il n'y a pas une situation d'égalité, il y a au contraire une situation d'inégalité entre une personne qui impose, qui va avoir de l'argent, qui va imposer son désir, et l'autre qui va s'y soumettre ou accepter. On peut dire éventuellement parler de consentement, mais là aussi la notion de consentement, c'est une notion compliquée. On pourra éventuellement y revenir plus tard. Donc cette situation inégalitaire où l'un impose une pratique à l'autre qui va s'accompagner d'un acte qu'on ne peut pas qualifier donc de sexuel, on va considérer que c'est un acte violent. Donc la prostitution, c'est de la violence qui se fait au travers d'un échange économique. Donc on va parler de viol tarifé.
Et voilà. Donc voilà, c'était la voix de Marie-Paul qui expliquait pédagogiquement ce que c'est que la lutte abolitionniste, enfin l'abolition de la prostitution, qui est une valeur fondamentale aussi pour moi, puisque je lutte pour l'abolition de la prostitution. Donc voilà, je vais continuer le feumage en vous faisant écouter donc Audrey Gassian, que vous avez déjà entendu tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est en tant que fondatrice d'Oser le féminisme 13 qu'elle va parler et rendre le feumage à Marie-Paul. Je vous la laisse écouter.
Je vais quand même dire quelques mots. Je pense que quand on rejoint le combat féministe, On le fait rarement par hasard, on ne le fait pas par curiosité. On le fait parce qu'on a un déclic, parce qu'à un moment, il y a une rencontre, un message qui provoque une prise de conscience qui nous dépasse, qui nous submerge. Et du coup, on voit le monde autrement. Ça a été le cas pour moi aussi. La campagne d'Oser le féminisme en 2010, Viol, la honte doit changer de camp, m'a bouleversée. Et d'ailleurs, Marie-Paul en parle dans cet extrait audio. Moi qui ai eu honte pendant 15 ans avant de rencontrer Oser le féminisme, j'ai été totalement percutée, étourdie par cette campagne qui a provoqué en moi quelque chose d'extraordinaire et qui a clairement changé ma vie. Et j'ai fondé, dans les semaines qui ont suivi, l'antenne, dans les Bouches-du-Rhône, d'Oser le féminisme. Le féminisme a cette puissance, là, de permettre de voir le monde sous un autre angle, de révéler à quel point nous sommes dans une société patriarcale profondément injuste envers les femmes. La première réunion d'Oser le féminisme 13, à laquelle a assisté Marie-Paul, et elle l'évoque aussi dans l'extrait audio, se déroulait au printemps 2011, et on était en pleine campagne Oser le clito, une campagne à la fois joyeuse et sérieuse. Nous nous réunissions à l'époque à l'étage d'une brasserie aixoise à proximité de la rotonde. Cette réunion est restée dans ma mémoire et j'en ai beaucoup parlé depuis lors de réunions militantes, car je me souviendrai toujours de la réaction de Marie-Paul, de sa surprise et de son émerveillement. Elle, normalienne, professeure agrégée en classe préparatoire à Thiers en biologie, femme de science, femme brillantissime, découvrait avec nous, petite antenne féministe tout juste constituée, l'anatomie du clitoris. Sa première réaction a été de nous dire que jamais elle n'avait vu de représentation de clitoris dans des manuels scolaires, que c'était incroyable que dans son apprentissage, dans son enseignement, cette partie du corps des femmes ait été aussi ignorée. Et elle découvrait ce jour-là avec nous ce qu'elle aurait dû apprendre bien avant si nous vivions dans une société plus égalitaire. À ce moment-là, je pense que Marie-Paul a eu un déclic. Et moi, grâce à elle, j'ai eu une deuxième prise de conscience très forte. J'ai compris à quel point une association féministe pouvait changer le monde. Si on apprenait aux femmes leur anatomie, quand les plus hauts niveaux d'études dans ce domaine ne le faisaient pas, alors on pouvait changer le monde. On pouvait abolir ensemble le patriarcat. On détenait là une force immense. Marie-Paul, à partir de ce jour, n'a jamais quitté Oser le féminisme. À ma plus grande joie, je l'avoue. Son dynamisme, son enthousiasme, sa gentillesse ont été excessivement précieux pour notre antenne OLF 13. Lorsque j'ai voulu passer la main de la présidence d'Oser le féminisme 13, parce que je ne voulais surtout pas être une présidente à vie, j'ai pensé à elle, évidemment, et elle a répondu présente, évidemment. Elle a été une extraordinaire présidente d'OLF 13. Elle a su renforcer le partenariat avec les autres associations, être sur tous les fronts, à Aix, à Marseille, monter des universités d'été féministes, à Aix, sur le site du CREPS. Marie-Paul était une militante précieuse, une personne précieuse. Elle m'avait félicitée lorsque j'avais été élue à la ville de Marseille, lorsque j'avais eu ma délégation. Rien n'est facile quand on est considéré comme jeune et quand on est une femme en politique. Il faut être, on le sait, deux fois meilleure, deux fois plus percutante, deux fois plus persévérante, deux fois tout. Et ce niveau de surexigence perpétuelle peut être aussi épuisant. Elle en avait bien conscience, elle aussi. Mais quand je me suis retrouvée avec elle et d'autres militantes dans le bureau du maire de Marseille, Benoît Payan, à côté du maire, j'ai ressenti un moment de joie immense. J'étais là, Oser le féminisme 13 était là aussi, était représentée, et pas par moi, par d'autres militantes. Daniela était là, et Marie-Paul était là, évidemment. Nous étions un ensemble de féministes, élus ou non, dans ce bureau du maire de Marseille, et c'était pour moi un sentiment de grand accomplissement. C'est un des derniers souvenirs, un des souvenirs les plus forts peut-être, que je garde avec Marie-Paul, un moment où les choses prenaient sens. Elle nous manque déjà terriblement. Sa perte si soudaine reste un choc pour beaucoup d'entre nous et je me prends encore à me dire que sur telle ou telle action, elle sera là. Je crois qu'elle est là aujourd'hui, avec nous. Et je crois aussi qu'elle aurait aimé qu'on garde un souvenir joyeux de l'extraordinaire femme et militante qu'elle était. Nous devons continuer de féminister la société, comme on aimait le dire avec elle. Nous avons des combats à continuer, de mener et de gagner. Parce que nous serons des post-féministes comme post-patriarcat. Il nous faut donc encore, aujourd'hui et toujours, défendre l'égalité femmes-hommes. Poursuit ce chemin de l'engagement militant, politique, que nous faisions avec elle. Elle nous regarde. Le combat féministe continue. Je vous remercie.
Voilà, alors j'ai oublié de vous dire que ce FEMAGE avait été organisé par la binôme de Marie-Paul, Daniela Lévy. Elle se présente comme ça, puisque voilà, elles étaient toujours ensemble à Oser le féminisme 13. Et je remercie Daniela Lévy. Donc je vais vous faire écouter maintenant le FEMAGE de Oser le féminisme au niveau national et avec les femmes qui représentaient. Donc c'était ces femmes s'appellent Alissa, Céline, Raphaël, Pauline, Annelise, Blandine et Daniela Lévy. Donc je vous fais écouter tout de suite.
Voix. Car tu continues de nous rassembler.
L'immense tristesse que nous ressentons est à la hauteur du lien qui nous unissait et de l'ancrage que tu gardes en chacun, en chacune d'entre nous. Marie-Paul.
Nous retenons ta voix, grave et enjouée, haute et claire, tes mots toujours justes, puissants et précieux.
Nous retenons la lumière qui coulait de ton regard, de tes gestes, de chacune de tes intentions, ta bienveillance constante, ton esprit vif, ta culture, ton humilité, ton humour aussi.
Ton élégance naturelle n'avait d'égal que ta simplicité.
Ta volonté n'avait d'égal que ta radicalité.
On ne peut te rendre fémage sans parler de tes engagements féministes nombreux et profonds. Oser le féminisme, la coordination française pour le lobby européen des femmes, Femmes et Sciences, le réseau européen de femmes migrantes, l'Assemblée des femmes, le collectif féministe pour le forum Génération Égalité.
Tu t'es battue à nos côtés avec la passion et la détermination que nous admirions tant. Tu disais avoir plus appris et être davantage enrichie en 5 ans de militantisme qu'en 50 ans de vie adulte.
Dès l'enfance, tu remettais en cause les privilèges de liberté de mouvement des garçons. Par la suite, pendant ta grossesse et ta vie de maman, tu dénonçais l'injustice d'être celle qui devait vivre les douleurs dans sa chair, mais aussi dans sa vie privée et professionnelle.
Femme de science, tu refusais la désinformation et le déni au sujet du plaisir sexuel féminin. Lors de ton départ à la retraite, tu as distribué des petites cultures en forme de clitoris à tes élèves et tes collègues, ta manière bien à toi de lutter, toujours dans le partage et dans la joie.
Ces combats, tu les as menés pour nous. Pour toutes les femmes, tu as défendu celles que l'on n'entend jamais, les plus précarisées, les plus en détresse, celles que la plupart des gens refusent de voir.
Ta maison était toujours ouverte, pleine de générosité. Tu as d'ailleurs souvent accueilli avec Jacques des femmes qui en avaient besoin, ou des militantes esselées. Tu, vous avez pris soin de nous.
Pour celles qui n'avaient pas déjà eu la chance de militer à tes côtés, nous te découvrîmes en 2015, lors de ton entrée au conseil d'administration d'Oser le féminisme, une telle évidence. Ton souffle nous a porté, tu étais et demeures un pilier, une présence toujours certaine.
De la lutte contre les féminicides à l'écriture inclusive, de l'abolitionnisme de la prostitution au matrimoine, tu as été de toutes les batailles. En 2016, tu acceptes même de te réinventer, une nouvelle fois, en figure du plaidoyer international de l'association.
Nous nous rappelons les féministes camps, les conférences, débats, réunions, les soirées à refaire le monde, les actions locales à Aix-en-Provence, à Marseille.
Nous nous rappelons ta manière d'aider chaque militante dès lors qu'elle avait une question sur la manière de faire vivre l'action et la pensée féministe dans les quatre coins de la France.
Nous nous rappelons les messages empreints de délicatesse que tu nous envoyais après chaque interview, après chaque débat, après chaque moment chahuté. Ils nous manqueront.
Nous nous rappelons la sororité partagée lors de la retraite du réseau européen des femmes migrantes à Rabat, les efforts pour faire retirer des publicités sexistes des espaces publics et les remplacer par des noms de femmes inspirantes, avec l'éternelle volonté de valoriser et de promouvoir le matrimoine dont tu fais désormais partie.
Et dernièrement, ton travail acharné au sein du collectif féministe pour le Forum Génération Égalité. Tu as été invitée à l'Élysée et tu nous as comme d'habitude brillamment représentée, avec force et dignité. La ministre des Droits des Femmes t'a rendu fémage, le maire de Marseille aussi, des élus, des associations, une foule d'amis que tu as rencontrés, fédérés et avec lesquels tu as su maintenir des liens puissants.
Tu as tellement donné à ces luttes qui sont aussi les nôtres, ces luttes qui nous donnent de l'espoir, du souffle et du sens, souvent, mais qui nous épuisent aussi parfois. Tu faisais partie de celles qui rechargeaient nos batteries. Équilibre subtil de douceur et de ténacité, tu as été de celles que l'on a envie d'écouter, d'accompagner, auprès desquelles on souhaite apprendre, comprendre, se dépasser.
toujours égale d'humeur, malgré les tumultes, les frustrations et les colères de la vie. Ton sourire était une bouffée d'air, une bouée.
Solide, la main tendue, tu n'hésitais jamais à te mettre en retrait pour que d'autres bénéficient de la lumière. Tu as accompagné de jeunes militantes jusqu'à ce qu'elles créent leur place. Tu continueras de nous inspirer et nous continuerons de t'aimer tellement.
Le vide que tes sœurs féministes ressentent aujourd'hui n'est que l'écho de tout ce que tu as donné. Tu as créé des ponts entre nous, des portes. Tu nous as aidés à passer par des fenêtres. Ton énergie et l'espace que tu ouvrais en toi, pour chacune d'entre nous, nous a permis de construire tellement de choses.
Tu as été de celles qui font jaillir des montagnes, un roc contre lequel on s'appuie pour reprendre son souffle. Cette métaphore géologique ne serait pas pour te déplaire.
Quelle chance ont eu celles et ceux qui ont croisé ton chemin. Quel rôle as-tu joué dans nos prises de conscience, dans nos engagements, dans la découverte de nos voies ?
Toi qui disais « vive les femmes qui parlent, qui osent, qui rêvent, qui vibrent. »
Tu incarnais tout cela avec élégance et constance. Tu vas tellement nous manquer.
Aujourd'hui, le meilleur famage que nous puissions toutes te faire est de continuer le combat, suivre ton exemple et nous battre avec sagesse et courage pour chaque fille, pour chaque femme.
Il est de notre responsabilité que tu restes dans l'histoire.
Voilà, donc vu que le temps passe très vite, je vais finir donc par le fumage rendu par sa nièce Marion Durand. Je vous la laisse écouter tout de suite.
Et moi, je vais commencer en protégeant derrière les mots de notre frère, de mon petit frère, qui est le grand frère de Philomène, qui m'a dit, au mois de juillet, quand on avait tous besoin de se réconforter, qu'on était tous un peu perdus, alors que je suis allée le voir dans son bureau à midi et que j'avais juste envie de pleurer, en fait, et que lui, il avait aussi juste envie de pleurer un moment avec moi, on s'est pris dans les bras et puis il m'a regardé, il m'a dit « Ah, mais t'as un jean et une chemise, t'es habillée en Marie-Paul. » Et après, il m'a dit, on a un peu pleuré tous les deux, et puis il m'a dit « En fait, la classe absolue. » Et je crois que c'était aussi, et pas d'abord, mais c'était aussi ça, Marie-Paul, pour nous tous. Et cette classe absolue, je crois que c'est celle-là, cette élégance-là que j'avais besoin de retrouver il y a 3 ans, qui est un des 3 moments qui a été les plus importants pour moi dans les dernières années que j'ai vécues. Il y a 3 ans, j'avais une vie éclatée, explosée. J'étais venue me reposer 24 heures à Aix. Et quand j'ai eu Marie-Paul au téléphone et qu'elle m'a dit « Oh Marion, ça me ferait tellement plaisir de prendre un pot avec toi », je me suis dit « Mais je crois qu'elle se trompe de personne, mais j'ai eu besoin de voir Marie-Paul à ce moment-là ». Alors je lui ai tout raconté. Je lui ai raconté ma perte d'emploi, je lui ai raconté ma séparation, je lui ai raconté la nécessité de quitter une maison pour sauver ma peau. Je lui ai raconté l'insalubrité de la maison qui a suivi, je lui ai raconté le boulot qui a failli me passer sous le nez après, parce qu'il me semblait trop haut pour moi, parce que je ne me sentais pas à la hauteur de ce travail-là, parce que prendre ce boulot et me battre pour ce boulot, pour lequel finalement je me suis battue, c'était laisser mes enfants à 400 km de moi. Je lui ai raconté tout ça en salve, et ce qu'elle m'a répondu m'appartient, je crois. Mais ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que je suis arrivée au rendez-vous en haut du cours Mirabeau avec la certitude que Marie-Paul allait me faire du bien. Et je suis repartie de ce rendez-vous, la tête haute, et d'une femme au bord du gouffre, au bord du précipice. Elle avait fait une guerrière, et j'étais devenue cette guerrière. Et le lundi qui a suivi, je suis arrivée au boulot, l'un des hommes, puisque c'était, je suis arrivée au 5e étage de cette grande communauté d'agglomération où j'ai été collaboratrice de cabinet, et l'un des hommes qui m'a croisée m'a dit « Mais Marion, tu es rayonnante, que t'est-il arrivé ?» Et écoutez ce qui a suivi, il m'a dit « Mais t'as un amant ou quoi ?» Et je lui ai répondu « Mais bien mieux que ça !» Et pendant les mois qui ont suivi, J'ai entendu ce que Marie-Paul m'avait dit. Je l'ai vécu. Je suis retournée voir mes enfants que je voyais tous les 15 jours, je vous rassure, c'était... Et je leur ai dit, je vous interdis d'écouter les gens qui vous racontent que je vous ai abandonné. J'ai continué à être fière de ce que je faisais. J'ai travaillé comme une forcenée et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et quelques mois après, quand j'ai vu Marie-Paul pendant un déplacement professionnel, j'ai eu envie de la revoir, j'ai eu envie de lui montrer ce que j'étais devenue. Et c'était un autre immense plaisir d'être cette femme-là, d'être cette femme qui ne murmurait pas quand on lui demandait ce qu'elle faisait dans la vie, qui ne murmurait plus, qui était fière de ce qu'elle était devenue et dont les enfants étaient fiers. C'était un déjeuner, je me souviens cette fois-là, un déjeuner avec elle, il faisait chaud dans les rues d'Aix. C'était tellement agréable, on était deux femmes, elle était ma tante, mais on était deux sœurs ce midi-là. Et je lui ai raconté comme, à force de travailler, à force d'aimer ce que je faisais, j'avais envie d'aller plus loin et que le poste de directrice adjointe de cabinet se libérait, mais que j'arrivais pas à l'obtenir parce que j'étais une femme. Et je crois que la discussion qui a suivi et qui nous appartient dans la voiture jusqu'à l'aéroport m'a aidée, tellement aidée que 6 mois plus tard, je suis devenue directrice de cabinet adjointe de cette grande agglomération. Ce qui est drôle, c'est que je l'ai appris, j'étais au MUCEM et la première personne que j'ai appelée pour lui dire, c'était Marie-Paul. Et du coup, je crois qu'elle m'a aussi aidée, et Philomène en a bien mieux parlé que moi. Je crois que c'est la première fois de ma vie, alors que j'avais presque 50 ans déjà, que je m'autorisais à être ambitieuse. Oui, je suis, grâce à Marie-Paul, grosse tête, devenue une femme ambitieuse et qui aime être ambitieuse. Et là vient le troisième moment que je voudrais
voir. Voilà, donc je suis obligée de couper. Ça a été difficile de choisir... pas toutes, j'ai pas, bien sûr pas pu passer toutes les interventions, notamment de Annie Carsenti de Femmes Solidaires Marseille, Anne-Marie Gauthier du planning du familial d'Aix qui était là, Suji Rothschmann du collectif national droit des femmes, Anna Zobnina du réseau des femmes migrantes, Catherine Sophie Dimitri Youlas, Europe de l'Alliance internationale des femmes, copilote du collectif féministe pour le Forum Génération Égalité, il y avait le fumage de Geneviève Courreau qui était tout à l'heure en première partie, il y avait aussi son mari, son fils, sa fille, et puis le lycée Thiers, puisqu'elle était une femme, une professeure d'exception, une professeure en classe prépa. Il y avait un inspecteur, il y avait ses élèves, ses collègues, etc. Voilà, donc je vais terminer juste par la chanson qu'avait choisie sa fille pour lui rendre hommage. Voilà, une chanson de Laurie Darmon qui s'appelle « Maman » et qui certainement lui faisait penser Marie-Paul a pensé à sa mère avec cette chanson. Et je vous dis au revoir à la semaine prochaine et merci de votre soutien, de votre écoute.
Préparer ses affaires le soir devant son armoire. Je la revois s'habiller le matin, nous déposer sur le chemin. J'entends encore la clé dans la serrure, le son de sa démarche sûre. Et puis cette allure impeccable quand elle rentrait du travail. Je la revois faire à dîner, appeler sa mère et l'écouter, nous poser toujours mille questions puis se détendre au salon. Mais j'entends surtout son silence d'elle, on ne savait presque rien. Elle ne disait pas sa puissance, elle ne racontait pas le bien qu'elle a semé si fort.
si fortes.